Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Et nous remettons maintenant ce moment d'enseignement entre tes mains, Abba Père. Et je prie maintenant, Seigneur. Je ne suis, Seigneur, que vase de terre entre tes mains. Qu'il te plaise, Seigneur, de parler au travers de moi, d'agir au travers de moi, de répondre aux supplications de quelqu'un au travers de moi, d'essuyer les larmes de quelqu'un au travers de moi, d'être la solution à quelqu'un ce soir au travers de moi, dans le nom puissant de Jésus. Que mes connaissances humaines, Seigneur, s'effacent, soient brisées, pour laisser uniquement place à ton Esprit Saint qui prend l'absolu contrôle ce soir au nom de Jésus. Parce que la sanctification est pour nous, Seigneur, un sujet essentiel pour notre marche chrétienne avec toi. Qu'il te plaise de donner à quelqu'un ce soir le pouvoir de l'accomplir dans nos vies au nom puissant de Jésus. D'accorder à quelqu'un, Seigneur, de progresser, Seigneur, vers cette perfection de la sanctification au nom de Christ Jésus. Et donne-nous de gagner maintenant ce combat au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici. Ainsi. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ce soir, nous voulons parler de la sanctification. Pourquoi et comment? C'est quoi la sanctification? La sanctification signifie se séparer de pour. Parce que si vous vous séparez de, vous ne pourrez pas rester en l'air. La nature aura du vide. Se séparer de et pour. Ça veut dire consacrer à. Parce que si vous vous séparez de quelque chose, vous devez consacrer la chose à autre chose. N'est-ce pas? On est d'accord. Si on n'est pas d'accord, là, vous m'arrêtez. On est d'accord. La sanctification veut dire mettre à part. La sanctification veut dire abandonner derrière nous, là, quand on va parler de en thème spirituel. Parce que mettre à part, consacrer, pour, tout ça, ça veut dire, et c'est l'explication qu'on peut donner du mot sanctification simplement. Si nous ramenons ça dans notre contexte ici spirituel, ça veut dire que nous devons abandonner le vieil homme qui est en nous pour avoir manifesté maintenant la vie de Christ en nous. Maintenant, ce sujet porte à polémique. Et c'est le sujet le moins enseigné aujourd'hui dans nos églises. J'ai menti. C'est le sujet le moins enseigné dans nos églises. Sans la sanctification, aucun chrétien ne peut avoir part à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tampon. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais attention, la sanctification n'est pas la perfection. On confond souvent sanctification et perfection. La perfection, c'est autre chose. La sanctification, c'est tout autre chose. Mais cette sanctification-là a deux aspects. Dans le premier aspect, nous avons la justification. Et cette justification, nous le recevons de Dieu lorsque nous confessons, nous croyons dans notre cœur que Dieu, là, il existe. Quand nous croyons en lui dans notre cœur, nous sommes justifiés. Et quand nous confessons de notre bouche, nous recevons quoi? Le salut. Et parce que nous avons été justifiés par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ, ce n'est pas la sanctification. Mais c'est ça qui nous amène à regarder notre vieil homme, notre ancienne nature adamique, comme quelqu'un le dirait tout à l'heure, pour se dire que cette vie-là ne correspond pas à la sainteté de Dieu en nous. Alors, il faut qu'on change. Mais, cette sanctification, on peut y parvenir comment? Ou qui sont les acteurs qui interviennent dans cette sanctification? Ces acteurs-là ne sont d'autres personnes que Dieu, ou par son Esprit Saint, et nous-mêmes. C'est les deux acteurs. Mais les deux acteurs ont des rôles différents à jouer. Mais quelle serait alors la part de l'homme? Serait-ce seulement la volonté? Seulement la volonté de changer? Non. Il nous faut la prise de décision. S'engager à changer. Et l'Esprit de Dieu nous aidera. Parce que personne ne peut parvenir à une vraie sanctification de lui-même. Tu vas t'efforcer par tes propres voies, mais tu n'y arriveras jamais. Et si vous ne retournez pas vers le Saint-Esprit, pour qu'il vous aide à parfait, votre sanctification, c'est là où rapidement on est découragé. Et on se dit, mais j'ai la volonté de changer. J'ai prié Dieu. Mais pourquoi il ne m'a pas changé? Mais pourquoi je suis toujours là? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je retombe dans les mêmes péchés? Et dans d'autres séminaires, je voyais des gens qui ont posé des questions comme quoi, mais pourquoi est-ce que Dieu permet-il qu'on retombe encore dans les péchés après lui avoir donné notre vie, après avoir décidé de marcher avec lui, après avoir entré en alliance avec lui? N'avez-vous pas lu les Écritures qui ont dit que Dieu se tient là à la porte et il frappe? Dieu ne peut pas nous violer. C'est vrai, il a la puissance. S'il veut, il peut ouvrir et entrer dans notre vie. Mais il ne le fait pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà donné l'autorité sur la terre. Nous sommes des bêtons. Et tout ce qu'il fera chez nous, il doit demander d'abord notre avis. C'est pourquoi il se tient là à la porte. Celui qui ouvre, il entre. Celui qui n'ouvre pas, il s'en va. Et il est là, il nous attend. Alors la sanctification viendra de nous. Cette prise de décision viendra de nous-mêmes. Parce que nul ne peut servir de maître. La Bible dit que personne ne peut servir de maître. C'est impossible. Vous ne pouvez pas servir le monde ou les choses de la chair et servir en même temps Dieu et les choses de l'esprit. C'est impossible. Mais nous allons nous poser la question et tous ensemble nous irons dans 1 Corinthiens 6. Je crois. Nous allons dire, mais qu'est-ce qui alors nous amène à ne pas être sanctifiés? Qu'est-ce qui est l'obstacle pour nous? Qui a trouvé? Alors, s'il vous plaît, donnez-moi la version français courant. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux développer. Louis Segond, une personne. Français courant. Ok, c'est bon. Le verset, 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Oui.
Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux.
Ça veut dire immoralité.
Adorateurs d'idoles.
Idolâtrie.
Adultère.
Adultère.
Oui. Pédéraste.
Pédéraste. Vous savez ce qu'on appelle pédéraste, non? Vous savez comment moi je les appelle? Les pididi, les sireurs de derrière, les efféminés.
Voleurs.
Voleurs.
Envieux.
Envieux.
Ivrogne.
Envie. Un instant. Ivrognerie, c'est ça, non?
Oui.
Oui.
Calomniateur.
Calomniateur. Ou
malhonnête.
Malhonnêteté. C'est ça, non?
Pas de place dans le royaume de Dieu.
Oui. C'est tout. L'autre version. Oui.
Ne vous y trompez pas.
Oui.
Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères.
Idolâtres, oui.
Adultères. Ni les efféminés.
Oui.
Ni les infâmes.
Infamie.
Ni les voleurs.
Oui.
Ni les cupides. Ni les ivrognes.
Oui.
Les outrageux.
Oui.
Les ravisseurs.
C'est déjà là. Les ravisseurs.
Voilà.
Bon, presque. Oui, les ravisseurs. Oui.
N'hériteront le royaume de Dieu.
On a tous lu ensemble. Est-ce qu'on peut ainsi dire que ces choses-là, lorsqu'on les fait, ça nous amène à ne pas être pur devant Dieu, oui ou non? Oui. C'est là que je veux m'arrêter d'abord. Et puis décortiquer tête par tête. Immoralité, c'est quoi? Oui?
Je peux dire que c'est l'absence de valeur sociale.
De valeur? Tu t'approches un peu. Oui, envoie derrière. Tu t'approches.
L'immoralité, c'est tout ce qui est sale. Tout ce qui est sale. Lorsque c'est sale, c'est immoral.
Et... Donc, l'immoralité, c'est tout ce qui est sale. Et c'est en ce sens que l'explication que notre frère a donnée tout à l'heure à Arnaud semble être un peu dedans. L'immoralité, dites-moi, vous, on ne va pas juger les autres. On ne va pas critiquer les autres. Et quand les gens disent, la Bible dit de ne pas juger là, laissez-moi vous dire, les saints comme nous, nous allons les juger. Mais nous n'avons pas autorité sur les autres qui n'ont pas encore reçu la grâce. Si le chrétien fait quelque chose de mauvais, ouvrez largement votre bouche. Dites-lui que c'est mauvais. Ça, ce n'est pas jugement que Dieu refuse ça. Il ne faut pas que quelqu'un nous trompe ici. L'immoralité. Combien de personnes de chrétiens ne sont pas dans l'immoralité? Combien? Combien de personnes ne sont pas dans l'immoralité dans l'église aujourd'hui? Où nous sommes dans l'assemblée des saints. Et Dieu a établi une autorité. Et Dieu dit, cette autorité-là, c'est à vie. Mais voilà des gens qui se lèvent, qui s'opposent maintenant par la rébellion à cette autorité pour dire, il est là maintenant, il y a longtemps, depuis qu'il est né là, jusqu'à il a 80 ans, il ne parle plus bien. On n'a qu'à l'enlever. C'est de l'immoralité dans l'église. C'est de l'immoralité. Immoralité, là, il y a beaucoup de choses dedans. Ça dit, ça résume même tout ça. Mais je vais le laisser d'abord. L'idolâtrie. Quand on parle d'idolâtrie, les gens pensent que c'est seulement aller vers les occultistes, pratiquer la magie, occulter les morts, comment ils appellent ça, néomancratie ou bien je ne sais quoi. Ou bien néomancratie, non? Les crassies là sont beaucoup. Mais combien de personnes, combien sommes-nous aujourd'hui chrétiens? Et nous avons donné notre vie à Christ. Chrétiens baptisés, qui chaque jour communient avec Christ, qui chaque jour combat le diable, mais qui demeurent dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? Vous dites que vous avez donné votre vie à Christ et vous pratiquez encore les divinités. Si vous pratiquez déjà les divinités, sachez que vous êtes en train de faire de l'idolâtrie. Il y a quelqu'un qui me disait aujourd'hui, parce qu'un dirigeant spirituel est décédé, et on parlait, il me dit, mais ah non, mais sa mort continue toujours de faire des miracles. Je dis, mon frère, calme-toi. Ça, c'est de l'idolâtrie. Tu ne peux pas être ici et encore adorer l'esprit des morts. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est notre activité de chaque jour qui prend la place de Dieu dans notre vie. C'est l'idolâtrie. Pendant que nous n'avons pas encore le boulot, pendant que nous ne sommes pas encore stables, les églises sont remplies. Les chrétiens, ils sont nombreux. Il y a des gens, je les regarde, ils entendent parler du Club Jésus pour réussir, ils pensent que le Club Jésus pour réussir, là, c'est pour nous. Ah non, hein? Quelqu'un vient ici, là, c'est pas pour moi, il fait plaisir. Hein? Il fait plaisir à sa tête et à sa vie, oui. C'est pas pour moi. Demain, personne ne vient ici, je dis Seigneur, merci. Ceux à qui tu as destiné l'évangile ne sont pas arrivés. Moi, je suis arrivé. Je vais continuer par annoncer l'évangile. Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. Et c'est pour votre marche avec Christ. Mais lorsque vous n'avez pas d'emploi, tout le monde court à l'église. Les cultes là sont remplis. À la fin, là, pasteur, vraiment le message d'aujourd'hui là, franchement, c'était pour moi. Franchement, franchement. De franchement en franchement. Quand on finit par trouver l'emploi, on se dit, non, mon patron a dit que non, moi, je ne peux pas. Hein. Je ne peux vraiment pas être là. Imagine que tu as pleuré Dieu. Tu as pleuré, tu l'as supplié. Dieu t'a donné un emploi. Et maintenant, on te dit, viens maintenant dire merci à celui qui t'a donné l'emploi. Celui qui est la source. Celui qui peut se lever du jour au lendemain, t'arracher encore ce poste-là. Viens l'adorer, tu dis non, que tu n'as pas le temps. C'est ça l'idolâtrie. Nos enfants, nos époux qui prennent la place de Dieu. Et quand je dis nos enfants, surtout nos époux, c'est souvent nous les femmes qui commettons cette erreur-là. C'est vrai, Dieu nous a dit que le mari est notre première autorité. Il dit non, c'est non. Je ne sais plus où dans la Bible il est écrit que si une femme prend un engagement sans demander l'avis de son mari, si après avoir pris cet engagement, son mari dit non, c'est non. Elle est libre de cet engagement. Ça veut dire quoi? C'est l'erreur que nous commettons. Nos soeurs, nos mamans et nous-mêmes là. Soyez les messagers de la parole de Dieu auprès d'eux. Voilà la bonne femme qui reçoit le Seigneur. Parce que c'est souvent les églises sont remplies de femmes. Après la déception. Ou bien quand on cherche mari, on vient à Dieu. Comme si Dieu avait une clinique de mari. Il donne et puis c'est fini. On s'en va à la maison. Là, elle reçoit le Seigneur. Son mari n'a pas reçu le Seigneur. Paul ne nous a pas dit que si le non-croyant consentit de vivre ensemble avec le croyant, celui qui a fini par donner sa vie à Christ, Paul n'a pas dit de le répudier, n'est-ce pas? Paul n'a pas dit ça. Il a dit, si consentant, vivez avec lui. Mais s'il ne consentant pas, et qu'il part de lui, mais on n'a même pas dit chassez-le, et qu'il part de lui, décide de partir de lui-même, laissez-le, il n'a qu'à partir. Le croyant n'est pas lié à ça. Ça veut dire que Dieu ne le jugera pas par rapport à ça, au départ de l'autre. Mais quand nous recevons le Seigneur, on dit, bon, le mari dit dimanche, on ne prépare pas la nourriture, on sort, on va à l'église. On revient, le mari dit, mais ah, tu n'as pas préparé, tu es allé à l'église. Église, t'es, je ne veux plus voir ça ici. Voilà la femme qui commence par parler. Et t'es, nous déboussinons, ma aussi, t'es tu as tout faux. Oui, c'est pas hum. Quelqu'un n'a pas dit hum. Eh, non. On vient là. Ça fait partie de la sanctification. La sanctification ne s'arrête pas seulement ici. La sanctification ne s'arrête pas seulement ici. Parce que quand on parle de la sanctification, beaucoup ont les regards tournés rien que vers l'adultère, la fornication, tout ce qui, l'immoralité sexuelle. Il n'y a pas que ça, hein. Dans la sanctification, il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que seul, tout ce qu'on a cité ici. Tout ça là, plus les 10 commandements. Tout ça là, plus tout ce que Dieu nous a dit de faire. Ne vous inquiétez de rien, tu t'inquiètes de quoi? Tu n'es pas sanctifié. Parce que tu penses que ta propre force peut te faire quelque chose. Et voilà cette femme qui dit, ah non, 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 mon mari veut m'empêcher d'aller à l'église. Éternel, joke-moi. Problème, l'homme, il prend une autre femme. Moi, je le vois, je l'acclame. Dieu n'a pas dit ça. Si ton mari n'est pas d'accord, qui t'a dit, parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, Christ est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. C'est vrai qu'il est bon d'aller dans l'assemblée des saints pour apprendre certaines choses que nous ne connaissons pas. Pour recevoir des enseignements que nous n'avons pas. Mais attention, nous sommes un temple de Dieu, mais pour obéir à la parole de Dieu, il faut qu'on fasse ce que Dieu nous a demandé de faire. Si mon mari dit non, je ne vais pas à l'église, je reste à la maison, je prie, j'ai dit Dieu, tu as vu, non, il a refusé. Et c'est toi-même. Puisque Dieu a dit, s'il oublie quelque chose, de lui rappeler, et lui Dieu, il va nous le payer. Ah, tu as dit que je ne peux pas prendre un engagement sans mon mari. Et que si aujourd'hui il n'est pas d'accord, je vais dire quoi que ce soit. Alors tu restes dans ta maison, tu intercèdes pour lui. Jusqu'au jour où il te donne l'autorité de partir. Vice versa. Il y a des gens que j'ai déjà reçus qui ont donné leur vie à Christ, mais parce qu'ils veulent aller écouter la parole, leurs parents s'y opposent. Ils disent, ah non maman, tu ne peux pas me dire ça, je suis désolé. Dieu est avant tout. Ce n'est pas comme ça que Dieu est avant tout. Dieu est avant tout. Mais si par exemple tu as l'opportunité d'avoir le message qui a été donné avant, tu peux recevoir, écouter chez toi. Tu peux même mettre tes parents, ton époux ou ta femme l'écoutera avec toi. Elle n'a pas besoin forcément d'aller à l'église. Et je ne dis pas non plus, ne prenez pas les deux extrêmes, parce que c'est comme ça les gens font. Je ne dis pas non plus, quand vous avez l'opportunité d'y aller, dites maintenant non, bon, si je suis à la maison déjà c'est bon. Non. L'idolâtrie, c'est toute chose qui prend la place de Dieu. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils doivent se retourner vers leur père d'abord. Il y a des gens, quand ils ont un problème, ils doivent retourner vers leur mère. Ou il y a des gens qui ont des amis. Et tant que cet ami n'a pas encore donné son avis, il n'est pas convaincu. Point barre. Il y a des gens qui adorent les serviteurs de Dieu, leur pasteur. Tant que le pasteur ne m'a pas encore imposé les mains, je ne suis pas guérie. Et j'ai eu la chance, lorsque je suis allée me balader dans le monde, et je suis revenue à Christ, j'ai rencontré un homme de Dieu. Et parce que ma mère, ayant reçu le Seigneur bien avant moi, et qui m'a annoncé l'évangile, a l'habitude de nous amener, quand il y a quelque chose à la maison, c'est le pasteur qui doit venir imposer la main, point barre. C'est le pasteur qui doit venir prier. Et parce que j'ai cette habitude, chaque fois je me tourne vers l'homme de Dieu. Mais un jour, l'homme de Dieu m'a dit, chaque fois il dit, bon, j'ai pas le temps, va prier et après je prierai pour toi. Va prier, après je prierai pour toi. Un jour, il me dit, ah non, moi je ne peux pas prier pour toi. Je ne suis pas convaincu de prier pour toi. Parce que Dieu ne m'a pas convaincu de prier pour toi. Retourne chez toi, entre en alliance personnelle avec ton Dieu, entre en communication personnelle avec lui et il te fera ce que tu veux. Parce que moi, je suis juste un canal que Dieu utilise. Mais combien de personnes n'avons pas encore mis à la place de Dieu, ne sachant pas? C'est la deuxième chose qui nous entraîne dans l'impureté pour ne pas être sanctifié devant Dieu. Parlant d'adultère, ça c'est partout. Dans l'église, l'église a même un taux d'adultère plus élevé que le monde. Ou bien, l'église a un taux d'adultère plus élevé que le monde. Et pendant que l'église vit dans l'adultère, c'est l'église qui se moque des peu qui sont en train de perfectionner leur sanctification. Il y a quelque chose que j'ai dit la dernière fois, il y a un pasteur qui me dit, il m'a arrêté net, j'ai dit, pasteur, assois-toi, prenons notre Bible. Il dit, dans la maison de Dieu, il doit y avoir de l'ordre. Je dis, d'accord. Il y a des lois, je dis, oui. Parce qu'il y a un des disciples qui a commis un péché qu'on veut réprimander. Je suis entièrement d'accord. Mais disons-nous la vérité. Vous qui êtes ici là, aussi grand que vous êtes, on va vous défendre de faire certaines choses. Dites-moi la vérité et vous-même vous allez obéir. Je ne dis pas de laisser le péché entrer dans l'église. Mais la façon dont nous donnons aux fidèles la leçon qu'il faut, la loi qu'il faut, c'est-à-dire nous les réprimandons, n'est pas correcte. Il dit oui, la sœur était dans le monde. Elle n'a pas reçu Jésus avec son fiancé. Et ils ont déjà atteint un certain niveau. Voilà quelqu'un qui annonce l'évangile à la sœur. Elle a accepté. Elle est entrée dans une église que je préfère taire le nom. Elle a tout fait. Elle avait ce désir de se sanctifier, d'être agréable à Dieu, de réellement changer sa vie. Cette sœur est allée à l'église. Elle s'est fait baptiser. Normalement. Et l'erreur encore était de savoir d'abord à quel niveau elle était avant de la faire baptiser. Ils n'ont pas fait. Elle s'est fait baptiser. Et quand elle s'est fait baptiser, par la grâce de Dieu, elle a annoncé l'évangile à son fiancé. Et le fiancé est arrivé dans l'église. Cette sœur, à l'époque, avait 34 ans. Et ma sœur, Yoko, voit-moi, 34 ans. Et ils se connaissaient dans le monde. Les deux sont venus à l'église. Le mari a suivi les enseignements, il s'est fait baptiser. Voilà maintenant les deux disent, bon, comme on avait un projet de faire le mariage avant dans le monde, et que nous avons reçu Christ, faisons alors notre mariage ici. Et on a envoyé la fille chez une diaconesse. Et la maman demande, mais est-ce que tu connais ton homme? Connais que j'ai dit là, vous connaissez nous. Tu connais ton homme? Elle a dit oui. C'est fini. Toute l'église est au courant. Voilà, dimanche, pasteur, viens. Sœur telle, lève-toi. Frère telle, lève-toi. Ils se sont connus avant le mariage. On ne peut pas faire le mariage pour eux. On vous réprimande, vous restez derrière. Jusqu'à nouvel ordre. Et si on doit vous célébrer le mariage, ce ne serait plus un mariage. Ils n'ont même pas d'enfants. Ce serait de la restauration. Notre Dieu, est-ce que c'est comme ça qu'il nous a demandé de faire les choses? Il dit toutes choses, même l'ascension doit être donnée par amour. Et c'est ainsi que tous les chrétiens, surtout la jeunesse chrétienne, a développé l'hypocrisie qui les amène dans l'adultère, dans la fornication et tout ce qu'il faut. D'abord, c'est où? C'est écrit où dans notre Bible? Que des gens qui étaient dans le monde, ce n'est même pas qu'ils sont nés, c'est-à-dire ils n'ont pas été éduqués à la base. Leur jeunesse n'avait pas été prise à la base. C'est un scénario dans le monde. Et Jésus qui est amour est venu. Ils ont cru en l'amour du Christ. Et on fait ça. Le dommage est que cette sœur et ce frère sont partis de l'église. Ils sont allés retourner dans leur église catholique. Ils ont fait leur mariage dans l'église catholique. Dans combien de nos églises aujourd'hui, on ne regarde que la lettre. La Bible dit que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Nous sommes attachés à la lettre. On ne doit pas attacher, on ne doit pas prêcher la tête comme ça. Il y a des églises, on dit une femme ne doit pas prêcher, on ne doit pas mettre des boucles d'oreilles, alors que nous laissons le peuple de Dieu mourir dans l'impureté. Dieu leur demandera leur sang. Et l'adultère, même nos hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ne sont pas épargnés de ça. Il y a un collaborateur dont le père est déjà décédé. Il n'a pas reçu le Seigneur avant sa mort parce qu'à côté de sa maison, il y a un pasteur qui aurait pris la femme d'une autre personne. Et il a dit, ça, je ne donnerai jamais ma vie à Christ. C'est comme ça, ils sont là-bas. Combien de fois nous sommes devenus des pieds d'achoppement pour les autres qui n'ont pas Christ? Parce que le monde nous regarde. Au lieu de faire des guerres imbéciles entre nous, des guerres sans tête ni queue. Pourquoi telle a fait telle? Telle a eu telle congrégation? Pourquoi telle prêche ici? Pourquoi telle fait ça? Et le pasteur dit, oui, tu vas me dire que c'est anormal de sanctionner les gens parce que ton mari prêche le divorce. Vous l'avez déjà entendu prêcher le divorce une fois? Non, peut-être, dites-moi. Vous l'avez déjà entendu prêcher le divorce? Et j'ai dit à cet homme de Dieu, le divorce là, si quelqu'un arrive à ce point, c'est vrai que ce n'est pas la touche de Dieu qui était sur ce mariage. Point barre. Qui vous connaissez qui peut ôter la main de Dieu sur des gens? Qui peut ôter la main de Dieu? Ou quoi? Qui peut ôter la main de Dieu sur des vies? C'est impossible. La Bible nous dit que ce que Dieu a uni, que personne ne peut, c'est du français là. C'est du français. Hein? Et moi je suis là pour interpréter. Le cas venu interpréter enfant. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Si la chose est séparée là, est-ce que c'est Dieu qui a uni? Pendant combien de temps les pasteurs ont déjà accepté, demandé à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Et combien de fois les futurs mariés ont déjà écouté la voix de Dieu qui dit, là, là, clairement, ça, là, non. Ils n'écoutent pas. À la limite, ils vont te dire, va prier. Si tu pries là, celui que tu vas voir, l'homme là, c'est un fantôme. Et tu dois rêver d'abord, faire des cauchemars avant de le voir, avant de voir ton mari. Dieu n'est pas dans les conneries là. Dieu n'est pas lunatique. Dieu n'est pas lunatique. Il faut savoir ce que l'on veut. Puisqu'il est à la porte. Et il attend qu'on ouvre. Trouve selon tes critères et présente-le lui. Maintenant, si tu le, lui présentes et qu'il te dise non, c'est mauvais en ce sens, écoute-le. Mais si tu ne l'écoutes pas, que tu dis bon, moi j'ai choisi, c'est tant pis, tu as choisi, mais vous allez rompre aussi pour rompre. L'adultère. L'adultère, c'est quoi? Vous êtes en fiançailles comme vous faites la clé, 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 clé. Et puis Jacqueline est à part. Afia est à part. Joséphine est à part. Tout ça là est à part. Ça là. Dans ça, il y a même la fornication. Si vous êtes dans une relation, je sais que le monde aujourd'hui là, Mursou, on ne peut plus vous dire quelque chose que vous allez écouter. Mais on va toujours dire, ceux qui vont écouter, vont écouter. Si vous ne basez pas votre relation, votre union sur la parole de Dieu, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. C'est vrai que nous, autres serviteurs de Dieu, à des moments donnés, nous fléchissons. Et vous faites comme vous voulez. Mais si tu ne veux pas garder un temps soit peu cette relation plus longue, connaître l'autre, parce que la vie à deux, ce n'est pas bon, on se connaît. Non, c'est une auto-éducation à deux. La vie à deux, c'est rester ensemble, regarder dans la même direction. La vie à deux, ce n'est pas de la blague. La vie à deux, c'est comme la conduite. Si vous n'avez pas le permis de conduire et que vous prenez une voiture, au premier carrefour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tuer tout le monde. Si vous n'avez pas le permis de Dieu pour entrer dans les liens du mariage et que vous sautez les étapes pour rentrer dedans, vous aurez quoi? Minable tonneau pour nous foyer, mais tombez, vas-y. Et vous développez l'hypocrisie. On développe l'hypocrisie à l'église où les chats sont gris. Mais le soir, quand on finit, vous les voyez, ils sont en train de chanter. Il y en a qui chantent juste parce qu'ils sont en train de guetter. Ils sont en train de guetter. Il y en a en chantant, là, ils font la main comme ça, là. Vous pensez que c'est la main? Ils sont en train de dire, à la maison, toi, toi, à la maison, toi, toi, à la maison. Une toute vérité, oui. C'est ça, non? Vous avez des fiancés. Au lieu de marcher selon la parole de Dieu pour arriver là où vous devez arriver, vous trouvez encore Djeliba qui est jolie. Et quand on dit, dis à ton voisin, esprit, on s'élève. On calcule bien. Rangez ton ménage. Je t'aime de l'amour de Dieu. Quel amour de quel Dieu? Tu t'aimes de l'amour de ton cœur, oui. Quel amour de quel Dieu? Vous devez savoir que même si les serviteurs de Dieu le font mal, s'ils annoncent mal l'évangile, vous devez regarder votre vie et votre avenir. Parce que mauvais mariage, c'est toute votre existence. C'est toute votre vie qui est brisée. Et donc, toke wazo. Et wazo, nabi. Mi frambo du 900. A nous de l'otakaton wadou eri. Et moi, on aime, nene. On roulant wadou. Ou bien, tout si vous pensez que vous êtes en train de leur faire mal aux serviteurs de Dieu, vous vous trompez. Parce que eux là, ils seront jugés par Dieu. Pour eux là, c'est là-bas. Mais vous là, vous devez savoir que votre vie là dépend de vous. Pendant combien de temps on a déjà fait ça? Et c'est dommage que le monde nous cite en exemple des cas d'adultère dans nos églises. C'est dommage. Et c'est nous qui jugeons les autres, sur lesquels nous n'avons même pas pouvoir. Je viens encore sur un autre point. Ce point-là, j'adore. Pédéraste efféminé. Ça, c'est une maladie. Laissez Satan en paix. Le diable ne s'est jamais levé pour aller dire à quelqu'un, va cirer ton derrière. C'est ça, non? Le diable n'a jamais dit à quelqu'un, va cirer le derrière. C'est une maladie. Appelez les choses par leur nom. Taka yé, ton meye manque. Puis on est sauté tout taka mena yé. Neti mon wanson, tout taka yé, ton meye. Les gens ne peuvent même plus avoir des enfants. Et ce n'est pas pour rien que Jésus appelle tout ça là des tombeaux blanchis. Ou bien, c'est moi qui ai dit ça. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés tombeaux blanchis. Et ce tombeau blanchi dans une tunique blanche, à col blanche, je n'ai appelé le nom de personne. C'est eux les pédophiles du monde entier. La source de ça, des sireurs de derrière. Et après, ils se lèvent et c'est eux qui veulent nous annoncer la parole de Dieu, qui veulent les suivre. On en a attrapé encore, c'est sur Facebook. J'ai menti. On en a attrapé encore, non? La pédophilie. Nos petites filles, nos catéchistes, on les baisse. Et nous, et nous sommes des responsables religieux. Et c'est nous qui voulons enseigner les autres. Et ils sont pleins dans les synagogues. Ces pharisiens-là. Et dans pédéraste là, il y a aussi efféminé. Efféminé là, c'est tous les hommes là qui se transforment en femmes pour un autre homme. Et c'est dommage aujourd'hui. Il y en a dans l'église. Et j'en connais parce que moi je dis, pour arriver à la pure sanctification, même la Bible nous dit que nous devons prendre cette décision, nous devons vouloir. Et si on veut, par l'Esprit de Dieu, nous y arriverons. Et je ne sais même plus dans quel verset, Dieu lui-même dit, il veut notre sanctification. Et on dit, non, Dieu est unique. Pendant combien de temps vas-tu cirer le derrière pour faire ce qui est anormal? Pourquoi est-ce que Dieu a brisé Sodome et Gomorre? Dites-moi. Pourquoi Dieu a brisé Sodome et Gomorre? Vous allez voir des pages Facebook où on dit, je suis lesbienne et je suis fière. Vous êtes malade, oui? Tu es lesbienne et tu es malade, oui? Est-ce qu'il y a un sujet de fierté là? Est-ce qu'il y a un sujet de fierté là? Si cette immoralité est dans le monde, ça se retrouve encore dans l'église. Vous me regardez comme s'il n'y en a pas dans l'église. Il n'y en a pas dans les églises. Moi, j'en connais qui est même interprète pour un homme de Dieu. Oui? Priez pour votre frère. Parce que là, il est possédé. Les gens qui couchent avec les petites filles, là. La Bible dit, c'est vrai. Lorsque nous croyons en Dieu, nous sommes justifiés. Lorsque nous confessons de la bouche, nous avons notre salut. Mais la sanctification doit être une décision. Et Paul va nous dire, nous allons essayer de lire dans, je ne sais plus trop où il a dit ça. Paul va nous dire qu'il court vers la perfection de sa sanctification. C'est où? Je crois, Philippiens 12, 3. Oui, Philippiens 3, 12, pardon. Qui a trouvé? On y va rapidement.
Philippiens 3, 12. Il dit, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Mm-hmm. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ.
C'est ça. La sanctification est progressive. Et nous devons chercher à parfaire notre sanctification. Mais aujourd'hui, l'Église oublie que c'est le peuple de Dieu qui est mis à part. Parce que dans l'ancien temps, c'est les objets et les prêtres qui sont mis à part pour servir Dieu. Il y a la terre sainte, il y a les vêtements saints, il y a les prêtres saints. Mais parce que Jésus-Christ est venu pour parfaire la loi, pour nous aider à pouvoir marcher, c'est-à-dire pour rendre la loi plus facile pour nous. Il n'est pas venu l'abolir. Hein. Si quelqu'un t'a dit ça, pardon, il ne faut plus aller chez lui. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu pour parfaire la loi. Il est venu pour rendre ça plus facile pour nous. Pas l'œuvre de la croix. Il n'est pas venu pour dire la loi, là, ça n'existe pas. Laissez. Non, c'est faux. Tout est grâce. Ne demande pas grâce à moi. Il y a grâce dans grâce. Hein? Si tu mènes ta vie dans l'impureté, dans le péché, et tu penses que tout est grâce, le jour viendra, tout sera pleurs. Tout sera pleurs. Ce ne sera plus grâce pour toi. Oui, quelqu'un va me dire, nous sommes dans le temps messianique. Oui, je suis d'accord, nous sommes dans le temps messianique. Mais Paul va nous dire que ce n'est pas fini. Il a été saisi par Jésus. Et il est en train de courir la course afin de rendre sa sanctification plus parfaite. Et sachez que la sanctification, elle est progressive. On ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire, bon, on la reçoit, c'est vrai, une seule fois. Mais elle est progressive. Et chaque jour, nous devons courir. Mais parce que nous sommes en train de courir sur nos propres forces, nous comptons sur nos propres forces, nous ne pouvons pas l'avoir. Nous devons nous abandonner à l'Esprit de Dieu pour nous conduire. Parce que dans l'Ancien Temps, c'était les objets. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est le peuple de Dieu qui est mis à part. C'est le peuple de Dieu qui est consacré pour servir Dieu. Tout le peuple de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus de souverains sacrificateurs, nous n'avons plus de Lévis, mais nous sommes le temple de Christ. Toi, moi, chacun de nous, nous sommes le temple de Christ. Et nous devons garder le temple de Christ dans la pureté, dans la sainteté. Ici, efféminé, je reviens encore dessus. Il y a beaucoup de choses dedans. Quelque part, on a dit efféminé, quelque part, on a dit pédoras. Les gens qu'on conduit vers les trucs pornographiques, là. Mais flou. Chrétien, film pornographique. Et les vendeurs de CD, ils mettent ça en bas. Tati, mais là, CD, il a dit, vraiment, tout le monde, il a dit, c'est le filet. Bah, il y a. Et bien, j'ai bambé. Parce que je sais qu'ils n'en ont pas. Ce n'est pas dans toutes les mains. Et on s'assemble. Et la jeunesse aujourd'hui, dans cette perversité, pense que je suis branché. Oui, on est branché. Nous, on regarde les actes. Pourquoi est-ce que tu veux regarder l'esprit de je ne sais pas qui va te pousser à l'adultère, à la fornication, à la débauche, à la télé? Pourquoi? Penses-tu que Christ n'est pas en mesure de t'aider lorsque tu auras ton épouse à faire comme il faut? J'ai reçu un couple et puis le monsieur dit, ah non, vraiment ma femme là, elle est mauvaise au lit, et ce qu'elle fait là, vraiment c'est pas normal et tout ça. Je l'ai laissé, il a raconté, il a fini. Il dit très bien, point. Laisse-moi te dire que pour comparer deux choses, pour comparer quelque chose, il faut avoir vécu deux choses, n'est-ce pas? Avant de comparer, par exemple, leurs deux tenues, c'est parce que j'ai vu ça et j'ai vu ça. Si je n'ai pas vu les autres, je l'ai vu seul, comment je vais comparer sa tenue? Et je ne sais même pas si les hommes s'habillent comme ça, comment je vais comparer? J'ai dit oui, c'est toi l'homme là, c'est toi l'adultère, tu aimes la vérité. Parce que c'est l'une des questions que je pose au couple quand je les reçois. Quand ils parlent, ils finissent avant que je ne parle là. D'abord je les laisse, je suis dans mon ordinateur comme si je ne vous écoute pas. Je vous écoute dit. Dans les moindres détails. Et ceux qui sont déjà passés dans mon bureau savent que je suis toujours occupé à faire quelque chose. C'est pour te laisser te vider. Et voir dedans si tu dis la vérité ou si tu me mens. Et demander à l'Esprit de Dieu, ce qu'il raconte là, c'est vrai ou bien c'est faux? Il veut me blaguer ou quoi? Et j'ai dit à l'homme, vous aimez la vérité? Il dit oui. J'ai dit, Mima, c'est Rolo Gandhi. J'ai demandé, vous aimez la vérité? Il a dit oui. J'ai dit aussi, amen, qu'elle sera. Parce que la Bible n'a jamais dit que la vérité la fait rire. Ou bien, on dit la parole de Dieu, c'est la vérité, le chemin et la vie. Mais on dit quand elle sort, tu dois te mirer dedans. Et elle sort comme un couteau à double tranchant. qui va jusqu'à l'intérieur. Pouah! C'est pourquoi parfois, quand les hommes de Dieu prêchent, la salle est... Parce que les gens se voient dedans. Il ne faut pas leur demander de rire. Ils sont en train de subir une opération. Un couteau fait quoi? Ça opère, non? Les bistouriers qu'on soit là, c'est pour opérer. Donc la parole de Dieu t'opère. Non, quoi, ton homme, pouah! Il va à l'intérieur. Il va jusqu'à l'os pour séparer jointure et moelle. Voilà. C'est ça la parole de Dieu, elle est une vérité. Je dis aussi à mes questions, la Bible n'a pas dit que la vérité là, ça fait rien. Je dis, ok. Madame, vous aimez la vérité? Je dis oui. Je dis très bien. Monsieur, c'est vous qui êtes adultère. Parce que tu t'es baladé avec ton baladeur partout là. Tu as commencé par la comparer aux autres. Pourquoi elle ne t'a pas comparé aux autres? Si tu veux qu'elle soit comme tu veux, admettons encore que tu t'es baladé jusqu'à demander pardon à Dieu. Parce que ma vie, démon, maintenant, demande pardon à Dieu. Quand tu demandes pardon à Dieu, maintenant, dis à Dieu de t'aider. Ou bien, vous ne savez pas qu'on peut faire ça? Vous êtes né comment? Dieu vous a créé comment? Même si vous êtes nu là, devant Dieu, vous avez toujours été nu, non? Ou bien, vous êtes sorti comment du ventre de votre mère? Et c'est pourquoi David va dire quoi? Où irai-je? Loin de ta face. Où fuirai-je? Loin de ton esprit. Parce que les ténèbres sont même lumière pour toi. Alors, prie. Si tu es fiancé et puis tu es pressé pour ne pas arriver, tomber dans la fornication, prie Dieu. Qui te donne de te maintenir? Et si votre mariage n'est basé que sur le sexe, vous n'irez nulle part. Il n'y a pas avant. Il n'y a pas chimie. Maintenant, quand ça va arriver à ce point, c'est là où les gens commencent par se battre. Parce que ce n'est basé sur rien d'autre que ça. Et pourquoi tu veux comparer? On ne peut pas comparer. Apprenez-lui à être comme vous voulez qu'il soit. Et les hommes vont dire, oui, tu sais, j'ai regardé dehors parce que mon épouse là, vraiment, elle n'est plus comme le premier jour. On s'en fout. Si elle n'est plus comme le premier jour, appelle-la, fais-la à soi. Parce que la Bible dit aux hommes, traitez vos femmes comme des gens de sexe faible. La femme est faible. Faites-les à soi, parlez-le. Et puis commencez par les guider au moment opportun. Va à gauche, va à droite, va devant, va derrière. Assois-toi ici. N'est-ce pas? Parce qu'on dit, les deux ne feront qu'une seule chair. Et pourquoi vous voulez tourner le regard derrière et dehors? Et après, dire que c'est ma femme là. Si elle ne sait pas faire, corrige-la. Parce que tu es le chef de la famille. Tu es le sacrificateur de la famille. Tu es l'autorité de la famille. Tu es le premier homme de la famille. C'est toi le chef absolu. Dieu te l'a donné. La fornication. La jeunesse aujourd'hui. Ah, tu sais, comment vous appelez ça maintenant? Les femmes là, comment vous les appelez? Hein? Les go. Les meufs. Mitesi, mais un meuf, Deji. Les quoi? Pourquoi vous faites comme si vous ne connaissez pas? Parlez, mais non, tout est chez. Hein? Les ja. Et quoi d'autre? Hein? Heavy. À ce temps, elle est où? Soudain. Ou bien quoi d'autre? Hein? Vert. Un marron rouge. Hein? Hein, Nyaï, là, c'est vieille, mais. Mon frère, pardon. Il y a ivoirien ici. Il y a béninois ivoirien ici. Comment on appelle ça? Pardon. Hein? On connaît ça ici, comment on appelle? Pourquoi tu ris? Hein? Comment, ou bien là-bas même? Comment, là-bas, comment on appelle ça? Tu as vu, non? Et donc, à ma gbem, yoko, yona yoko, vous. Alors là, yoko, vous, dans la moue, toi, arrive à ma yigbe. Et alors là, mi moue, toi, fiti, ça dit. Et on laisse, on laisse. Oui! Bon, la jeunesse aujourd'hui est devenue n'importe quoi. Et vous menez votre vie dans la débauche, pensant que vous êtes à la mode. Soyez à la mode pour les hommes. Mais vous n'allez pas exister dans le calendrier de Dieu. Hein? Vous n'allez pas exister dans le calendrier de Dieu. Qu'est-ce que la fornication vous donne? La maladie? Et quoi d'autre? Les problèmes? L'angoisse? Des soucis? Vous prenez 5 minutes pour détruire toute votre vie. Et pour briser en vous l'onction que Dieu vous a donnée. Les talents que Dieu a mis en vous. Que vous pouvez utiliser. Tout ça là est brisé. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous couchez avec une femme, tous les deux, vous faites combien? Et c'est la dernière fois que je discutais avec un frère, Dieu m'a donné une puissante révélation. Dieu dit, pourquoi vous communiez avec moi? Je dis, oui, pour entrer en alliance avec toi. Il dit, ah, c'est tout? J'ai dit, non. Pour recevoir ta vie Zoé en nous, la plénitude de ta vie en nous. Il dit, oui, c'est tout. J'ai dit, oui. Bon, il y a beaucoup d'autres choses. Et Dieu dit, ok. Si tout ça, là, la communion veut dire tout ça, là. Lorsqu'un homme couche avec une femme, il entre en communion avec elle. C'est là que vous allez vous coucher avec les dancy, les mamissi, les... quoi encore? Vodou les supporte. Et surtout, les gens de... les mamissi, là, sont pleins aujourd'hui. Ça existe partout aujourd'hui. Je connais un homme qui voulait tromper sa femme et a pris une femme. Ils sont allés à l'hôtel. Et voilà qu'ils sont allés à l'hôtel. La femme, elle est dansy. Elle ne peut pas passer sous un arbre la nuit. L'homme ne sait pas. La femme sait. La nuit maintenant, l'homme dit, bon, avec mes amis, il est chaud, mais on va en boîte. Donc, comme ça, on va sortir. Puisque c'est à l'intérieur du pays, à Bombay. On va sortir, on va aller en boîte. La femme dit, non. Parce qu'elle, elle sait que, avant d'aller là-bas, il y avait un grand arbre à l'endroit, il paraît. Donc, elle devait passer sous l'arbre. Elle a dit non. Ah, ils ont quoi, ils ont mèche. Ils ont avant. Ils ont avant, ils ont dauphin. Ils ont pour ils ont des silentomes. Il dit non, on doit partir. La fille a fini par dire oui. Ils sont passés sous l'arbre, ils sont allés en boîte. Ils sont restés là-bas jusqu'à Gantori Robe. Ils ont tout ce que vous connaissez là. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, il faut vite partir. Voilà, maintenant, il faut repartir. Je crois que c'était à 4 heures, ils ont dit, ou un truc du genre. Et maintenant, la fille dit, on va pas attendre le matin pour partir. Parce qu'elle est déjà passée par là, la nuit, c'est pas bon pour elle. Heureusement qu'elle n'est pas entrée en transe. L'homme dit, non, on n'a qu'à rentrer. Ils sont rentrés maintenant. C'est une question de distance, hein. L'hôtel est, c'est dans l'enceinte de l'hôtel qu'il y a la boîte. La femme est repassée. Ils sont rentrés dans leur chambre. Voilà, la femme a commencé, elle est entrée en transe maintenant. Le gars ne savait pas. Ah, chant, chichant, chirurichant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, parce que la chose que vous ne savez pas, nous avons l'esprit de Dieu qui nous donne notre parler en langue. Mais les adeptes là aussi parlent en langue, hein? Vous ne savez pas? Le diable est un plagiat de Dieu. Et maintenant, ah, chant, chichant, chirurichant. Ah! On entend dire quand oui, dit, c'est quoi changer, changer, riche? Elle est contente ou bien elle n'est pas contente? Elle a changé, changer, riche. Chérie, changer, riche. Elle dit, mais elle était déjà, elle reconnaît très bien, oh oui. Et ils étaient obligés cette nuit-là d'aller vers les prêtres dans les consorts. Là. Il est venu retrouver sa femme à Cotonou nu. Il n'avait pas de chemise, c'est quelqu'un d'autre qui lui a passé un pantalon. Parce que la femme là, quand elle était en transe, elle avait de force. Elle est déchirée à Outombi. On l'a amenée à l'hôpital. Tous les médecins ont fui parce qu'elle avait une force pas possible. Et c'est après que quelqu'un a dit, ça c'est la manifestation de tel fétiche. Il faut l'amener à tel endroit. Quand il est revenu à la maison, sa femme dit, ah, papa était John. Il dit, bon, Chodo. Et ses amis qui l'ont amené à la maison disent, madame, mes coudeaux tarabé. Madame, mes coudeaux tarabé. La pauvre dame, elle n'a rien compris. C'est 5 minutes qui l'a amené dans cet état. 5 minutes et toute votre vie est bousillée. 5 minutes est l'instrument que Dieu veut utiliser pour l'évangélisation d'une nation. 5 minutes est l'homme que Dieu veut prendre comme Josué. Pour amener son peuple au combat, il est mort, spirituellement et physiquement. Et vous êtes marionnette. 5 minutes, la femme que Dieu veut utiliser comme Déborah, son onction s'est éteinte. 5 minutes, et celui que Dieu veut prendre, Fais maintenant un président puissant des nations. Sa vie, c'était 5 minutes. Et un homme, un pasteur, que Dieu veut utiliser pour manifester sa puissance comme au temps d'Israël. Il perd le pouvoir et l'autorité. Est-ce que il est normal d'utiliser ces 5 minutes-là pour arriver là? C'est la question que nous devons nous poser. 5 minutes pour gagner tout le monde devant l'ordinateur. Le vol. Et la jeunesse d'aujourd'hui est paresseuse. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est paresseuse. Elle ne veut plus rien faire. Vous trouvez des femmes qui vous gaillent dans l'église. Vous n'avez pas vu? Des hommes de Dieu qui vous gaillent. Je veux 500 000 francs pour vous donner une notion particulière. Dieu m'a dit, quelqu'un n'a qu'à donner 500 000. Quelqu'un n'a qu'à donner 1 million. Et le miracle, il va voir ça tout de suite dans son emploi. Tu es comptable, tu vas prendre l'argent. Tu es comptable, tu te lèves. Tu te laisses aller par ce mensonge-là. Parce que ce serviteur de Dieu, il n'est pas sanctifié. Il vous ment. Et le peu que vous avez gagné là, vous ne dissociez pas. Et puis vous allez leur donner. Ça, gai kwa gumedio eli on. Gai kwa gumedio eli si. C'est dommage. Je vois ma belle tante qui me dit, vraiment votre histoire de Dieu là, ce que toi tu viens raconter ici avec Edgar tous les jours là, pardonnez, je crois en votre Dieu, mais pardon. Allez là-bas d'abord. Après, on va venir. Il faut prier pour nous. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, oui, mais j'étais tranquille ici. Mon enfant est malade. On m'a fait venir un pasteur. Quand là, oui, non. Au Facebook. Et il est arrivé. Il prie pour les deux enfants. Pam. Comme le dirait Papa Karambéry. Il y a des gens qui font Matassa, montons son, mettez, c'est notre vote. Le. C'est leur parler en langue ça. Matassa, montons son, notre vote. Le. Il est en train de parler en langue point bas. Eh ah, parler en langue voisine, c'est une moyen. Matassa, montons son, mettez, c'est notre vote. Le. Ah, le pasteur là, il a l'onction. Il parle en langue et puis moi-même, j'ai les frissons. Écoutez, le Saint-Esprit est différent de vos émotions. L'Esprit de Dieu est différent de vos émotions. Tu auras aussi un rond de chai. Ils auront un rond de chai. Est-ce que le Saint-Esprit est méchant? Vous êtes démoniaque? Vous dites que l'Esprit de Dieu est venu. Je suis tombé, j'ai roulé quand le passé a prié pour moi. Et vraiment, d'eau pour lui. Oui, ça ce n'est pas le péché contre l'Esprit, mais c'est la vérité. Dieu dit, il est dans un vent calme. Son esprit vient avec une douceur. Hein? Son esprit vient, te donne la conviction. Et tu parles avec assurance. Si le Saint-Esprit vient, que tout le monde fait. Les gars, ta femme, il dit. C'est ça. Et les gens aiment ça. On m'a dit que c'est l'esprit des eaux qui a. Ça veut dire quoi? Non. Gars, il vient à Goumé. Avec le vol. Donnez tel, vous aurez telle onction. Et le gars, il donne. C'est pourquoi les gens sont déçus aujourd'hui. On est en train d'aller lentement vers la fin. Pour que s'il y a des questions, on va y répondre. Aujourd'hui, là, les gens ne veulent plus aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné tout leur bien. Ils n'ont rien eu. À la limite, ils sont devenus encore plus pauvres qu'ils ne l'étaient. À qui le tort? L'impureté qui est rentrée dans l'église. Et si vous ne voulez plus être victime de ça, commencez par marcher avec le Saint-Esprit vers c'est-à-dire la perfection de votre sanctification. Les envies, nous tuons main. L'homme de Dieu l'a construit son temple. Si tu vois, je veux construire un temple comme si. Je vais aussi construire comme lui. Il a fait ça chez lui. Quand je suis allé chez... Je ne dis pas de ne pas copier ce qui est bon chez quelqu'un. Mais, c'est-à-dire, pas l'envie. Et blomant blot là. Dieu n'est pas dedans. David avait l'envie de construire un temple pour le Seigneur. Dieu va lui dire, non, ce n'est pas toi qui vas me construire un temple. C'est ton fils Salomon qui le fera pour moi. L'envie va nous amener où? L'envie va nous amener où? Envie, telle personne apportait-elle? Parce que telle personne était prête, le pasteur. Parce que telle personne fait telle chose. Moi aussi, je vais faire. Il pense que je suis seule. Il n'y aura pas d'onction dedans. Ce n'est pas ton appel. Ayons des comportements et des attitudes. C'est-à-dire, un comportement sain dans la maison de Dieu. Avec des attitudes saines. Vous allez penser que ces petites choses-là, non, bon, ça là, c'est trop petit. Bon, envie seulement là. Non! Tout est rangé dans le même placard chez Dieu. Et ça là, maintenant, pour finir le reste, on va revenir demain. Ivrognerie. Chrétien, fais tas de la fête de bien. Hein? Gobeté. Ah. Vous voyez comment le diable blasphème Dieu? Et il y a même une bière qu'ils appellent Mao. Ah. J'ai menti. Ni me maintenant nous ou mi mon hak mon bé. Ou bien. Mi mon voye mais nous là, Dieu vous regarde. Une bière qu'ils appellent Mao. Le diable est méchant. Il vous offre la bière qui va vous amener dans un état d'ivresse. Que le Saint-Esprit fuit votre vie. Qu'il soit attristé en vous là. On rabaisse le prix à 200. Et les sucreries sont à combien? Prix normal. C'est ça, non? La Bible dit de séparer les choses impures des choses pures. Tu ne peux pas développer une vraie sanctification si tu ne te sépares pas des choses impures de ce monde. Les fréquentations, les mauvaises fréquentations. Tu es chrétien, tu veux parvenir à la vraie sanctification. Et ce sont tes amis qui t'amènent en boîte. Et ce sont ces amis-là qui parlent et tu les écoutes. Ce sont ces amis-là qui t'appellent pour la fête de bière. Oh mon gars, mon show gars, oh wow. A bien essayé, tu es un homme. Non, mais d'un mètre, tu es un homme. À quoi de nos barres en voie? De nos noirs en voie. N'est-ce pas? Ah, qui commis, ouais. N'est-ce pas? Il est coiffeur et sa femme est discutée par deux hommes du quartier, l'un à gauche et l'un à droite. Et les deux viennent se coiffer chez lui. Et un jour, quelqu'un lui a dit, ah, si oui, mais les gens disent oui. Voilà qui n'a pas le pouvoir de leur demander. Le premier est venu. Oh, le premier a fini, il a passé la main au deuxième. Le premier est venu se coiffer par l'année. Il dit d'accord. Et par l'année, il dit d'accord. Il dit d'accord. Et il dit d'accord. Ah, la lame est là. Lui aussi, le peuple m'a dit. Il dit d'accord. Et il dit, eh, à mon niveau, il dit d'accord. Il dit d'accord. Je vous vois, l'esplanade du stade de l'amitié là, c'est petit, hein? Ma voiture là, elle est teintée. Je vous connais tous. Ma voiture, ma yon imérito. Ah, yon ma wande à sa kola mon roga. Ni ma roga blo. Je vous connais tous. Les vitres de ma voiture sont teintées. Il y a des moments où je passe à côté de vous. Quand je trouve les gens dans une position comme ça là, je fais semblant au métier qu'a dit et dit. Tcho, ma ka. S'il vient me saluer, m'ka ton weyame. Quand je vais te rencontrer là où je vais te rencontrer, moi à Zambie, mon robiago quand le terrain. Oui, ivrognerie. Vous n'avez pas compris que c'est un autre moyen du diable pour vous arracher tout ce que tous les biens que vous avez. Quand vous venez à l'église là, vous ne voulez pas semer pour récolter pour vous-même. À moins que quelqu'un vienne vous gailler dans l'église, c'est là on donne 300 000. Ou bien les gens donnent à l'église, ils n'ont pas le retour. Pourquoi? Mais il y en a 500 000, hello. Il y en a 500 000. Pour que tout le monde puisse voir que je suis en mesure de donner 500 000. La Bible dit, ce que la main gauche fait, que la main droite ne soit pas au courant. Ce que la main droite fait, que la main gauche ne soit pas au courant. Et comme ça, tu vas avoir les bénédictions liées à l'acte que tu as posé. Tu prends les deux derniers. Je vois des chrétiens dans ce pays pour donner offrande là. Ils ont même billet de 10 000. Alléluia, alléluia, alléluia. Tchia. Tout le monde va voir que c'est beaucoup de billets. Et tu veux quelle bénédiction? Si toi-même, tu as déjà eu ta bénédiction, tu t'es déjà montré, non? Et tout le monde a déjà vu, non? Quelle bénédiction tu veux encore de la part de Dieu? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus? Quand vous prenez vos sous pour aller acheter la mort, sachez que le Saint-Esprit va vous laisser. Et c'est autour d'un verre, autour d'un verre, la fête de la bière, que ça là en général vient. C'est autour d'un verre que ça là vient. C'est autour d'un verre que ça là vient. C'est autour d'un verre, ça. Autour d'un verre, l'envie. Autour d'un verre, calomnie. Parce que la gueule qui est saoulée ne raconte rien de bon. C'est là. Autour d'un verre se développe ça. Autour d'un verre. Tout ce qui peut amener quelqu'un à être impur se passe là. Autour d'un verre. Vous avez la gueule saoulée. Et quand le diable vient en ce moment, il frappe même pas la porte parce que les deux battants là, aïe, c'est ouvert, blagada. Il rentre, la porte est grande ouverte. Le diable rentre et puis il s'assoit. Et pour finir, je veux que les choses que j'ai essayé, et c'est exprès que j'ai essayé de donner des exemples et de décortiquer chaque chose avant de dire comment parvenir maintenant à la vraie sanctification. Parce que pour refuser quelque chose à quelqu'un, il faut connaître la chose, il faut l'identifier, il faut lui dire en quoi c'est mauvais, il faut lui expliquer. Et maintenant, quand tu lui diras ne fais plus, il n'a même plus besoin que tu sois là. Il ne le fera plus. Parce qu'il sait que c'est lui-même. C'est sa vie à lui. Nous allons nous en arrêter là pour ce soir. Et demain, nous allons aller beaucoup plus loin. C'est vrai que la prière a pris un peu plus de temps. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Dans le développement, j'aimerais que vous fassiez quelques clarifications. Vous aviez dit, lorsque vous étiez au niveau de l'adultère,
oui,
que si nous prenons un mariage qui, pour finir, vient au bord du gouffre, que c'est
pas sûr, au bord du gouffre, du divorce.
Bon, ok, au bord du divorce, c'est sûr que Dieu n'avait pas sa main dedans. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que cette affirmation est toujours vraie? Est-ce que cette affirmation est toujours vraie? Pour ma part, je dis oui en partie, mais nous ne pouvons pas dire que tout ce que nous vivons comme divorce aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'a pas agréé le mariage. Il y a beaucoup de choses qui dépendent du comportement des deux parties qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu dans ce cadre-là. Donc, là, c'est ma première question.
Mm-hmm.
La deuxième question, est-ce que lorsque nous venons, et au niveau, par exemple, de l'exemple de votre fille que vous aviez donné, que lorsque le Saint-Esprit vient, tout ce qu'on fait, que moi je qualifie de l'émotion incontrôlée des personnes, est-ce qu'il ne peut pas arriver aussi, toujours aussi de ce côté, que ça soit vraiment le Saint-Esprit et que ça se passe comme ça une fois en passant dans tout ce que nous voyons? C'est de ça que vous êtes en train de parler ou bien du cinéma auquel nous assistons aujourd'hui dans les églises? Donc là, ce sont mes deux questions. Merci.
Je vais y aller. Et je vais commencer par la dernière question. La Bible nous a parlé dans le livre des Actes. C'est le livre dans lequel on a parlé plus du Saint-Esprit que tous les autres livres. Lorsque nous prenons le livre des Actes, quand l'Esprit de Dieu était venu sur les disciples, lequel parmi eux était tombé? Peut-être que j'ai oublié. Lequel parmi eux? Dans tout le livre des Actes et dans toute la Bible, sur qui le Saint-Esprit est arrivé puis il est tombé, bim. Il a commencé par faire de la roulade. C'est la Bible qui nous départage, mes frères. Et nous ne pouvons pas imiter autre chose que la Bible. Parce qu'il y a trop de doctrines. Et on nous a tellement enseigné des choses sur lesquelles nous étions bornés. Moi-même qui suis là, j'étais borné dessus. Les seules personnes qui à la limite tombaient, ce n'est pas le Saint-Esprit qui venait sur eux. C'était des démoniaques en face de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas résister. C'est différent. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur quelqu'un. Non. Quand j'ai été à la Cisco 2013, il fut un temps, c'est Papa Karambéry qui devait prêcher. Il y a un monsieur qui s'était levé. Ainsi parle l'Éternel. Il a parlé, il a fini. Il était déjà assis, il voulait commencer son enseignement. Et il a dit, écoutez-le. Celui-ci avait parlé en français, il n'avait pas parlé en langue. C'est vrai, il a parlé en langue, mais quand il a dit, ainsi parle le Seigneur, il s'est mis à parler français. On a écouté. Une autre dame était dans la foule. Elle s'est mise à parler en langue. Papa dit, envoyez-lui le micro. On lui a envoyé le micro. Et elle parlait en langue. Et papa nous interprétait en même temps ce que la dame disait. Et quand la dame a fini, il y a une troisième personne qui s'était levée. Je crois que c'était dans l'aile gauche de la salle. Ça dit qu'elle parlait si fort. Bon, j'étais pas... Il y avait plus de 15 000 personnes. Hein? De loin, on l'entendait. Papa dit, arrête esprit de je ne sais quoi. Je ne sais même plus comment il a traité l'esprit. Ça ne vient pas de Dieu. Mais elle parlait en langue. Je vous assure que moi-même qui étais assise, dès que j'entendais la dame, pour moi, elle parlait de la part de Dieu. Il n'y avait pas des signes autres que les autres, quoi. C'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Il y a, si Dieu vous donne le discernement des esprits, c'est en cela que vous voyez quelqu'un, vous n'avez jamais vu la personne. La personne vous parle. Mais vous êtes convaincu que cette personne est en train de mentir. C'est le discernement des esprits. Parfois, il y a des gens qui me parlent. J'ai fait cette expérience encore cette semaine par le don de discernement. Il y a quelqu'un qui voulait me voir. La personne était attristée, abattue. La personne avait tellement de problèmes et voulait me parler. Mais je n'ai pas pu rencontrer la personne. C'est monsieur qui a pu le rencontrer. Ils ont parlé. Et monsieur m'a rendu compte, bon, on s'est dit telle chose. Et voilà comment ça va se passer. J'ai dit d'accord. Il m'a dit, prie pour lui. Je lui ai dit dans les oreilles, je ne suis pas convaincue. Je ne prierai pas pour lui. Et on est rentré. Quand on est rentré, je lui ai dit, il avait tout dit. Bon, vous savez, les hommes ne savent pas trop raconter les choses comme les femmes. Si c'est la femme, va te raconter. Ah, toi-même, tu es content. Donc, les hommes, là, eux, ils ne racontent pas. Ils font en même temps le résumé, voilà, un briefing de ce qui a été dit. J'ai dit, j'ai la conviction que cette personne-là, c'est vrai, cette personne vient de connaître Dieu. Mais j'ai la ferme conviction, par l'Esprit de Dieu, qu'il est encore dans le péché. Il a fait des actes et là où il est, il a peur. Mais rien, la personne ne te prouve qu'il a peur. Et il doit avoir envie de se confesser. Tant qu'il ne confesse pas tout, moi je ne peux pas prier pour lui. Il a dit, ah, j'avais oublié de te dire. Il m'a dit qu'il avait des choses en lui qu'il veut nous raconter. C'est le discernement. Surtout ça, si vous n'avez pas le discernement, vous allez tomber dans beaucoup de péchés, faire beaucoup de choses. Dieu n'est pas dans les bons. Il est dans ce qu'il nous commande. Il y a ce que nous faisons qui est bon. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est bon. Mais Dieu ne t'a pas commandé. Il ne peut pas te donner le bénéfice de quelque chose qu'il ne t'a pas commandé. C'est bon, tu as fait, c'est bon. Il faut l'écouter. L'Esprit de Dieu. Moi, je défie quiconque, parce que j'ai vu dans la Bible, personne n'est tombé en roulade. Et la Bible ne nous a pas dit que quand l'Esprit de Dieu était arrivé à Pentecôte, les gens étaient en transe. Est-ce qu'on a parlé de transe? On a parlé de transe. Transe, you know, si, so, quoi. Est-ce qu'on nous a dit ça? Non. On dit qu'il parlait de nouvelles langues. Et quand tu lis même le livre des Actes, tu as l'impression, si tu veux caricaturer ce que tu lis, ils sont paisibles. Un esprit est venu sur eux. Ils sont en train de parler, de déclarer. C'est peut-être le parler en langue qu'on ne peut pas juger tant que Dieu ne nous a pas donné le don d'interprétation des langues. Ça, c'est différent. Parce que il y a des gens qui ont le don d'interprétation. Quand vous parlez en langue, ils savent ce que vous dites. Et à des moments donnés, Dieu peut permettre que votre parler en langue soit dans une langue d'une nation juste à côté. Et Papa Karambi nous a donné un exemple. Il dit qu'il était allé, je crois, en Tunisie ou je ne sais où. Et il devait faire sa réunion. Et à l'instant même avant la réunion, il y a un petit garçon qui a commencé à parler en langue. Mais il n'avait pas reçu le don d'interpréter. Mais Dieu lui a dit, laisse-le. Le petit de 8 ans, il parlait en langue, jusqu'à ce que le mendiant assis à la porte de l'église est rentré. Quand le mendiant est rentré, il a dit à la fille, il a commencé à pas parler au petit garçon sa langue. Le petit garçon le regarde. Et il lui dit dans sa langue, toi là, quitte là-bas. Pourquoi tu ne veux pas me répondre? Réponds-moi. Le petit le regarde. Il dit, dans sa langue, je ne comprends pas. On lui dit, mais il ne comprend pas. Il dit, c'est faux. Il vient de parler ma langue. Et les gens lui ont dit, mais c'est le Saint-Esprit. Il arrache le micro aux gens et dit, oui, j'avais fait un plan contre l'église. Et ensemble avec mes frères, de l'autre côté, nous voulons vous déclarer la guerre. Nous voulons brûler l'église. Mais tout à l'heure, votre garçon là disait que c'est lui, Dieu, qui est en train de me parler. Si jamais j'ose le faire, il va frapper. C'est ce que le petit vient de dire. Il y a des moments, par exemple, moi je suis en train de parler en langue, mais je sens comme, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je ne m'entends pas. Mais à des moments donnés, je me rends compte, je dis, mais c'est quoi? C'est le lingala, je parle ou bien c'est quoi? Il y a des moments, pas toujours, je suis en train de parler en langue, mais j'ai comme l'accent d'une langue que j'ai, voilà, d'une langue connue. Peut-être que si c'est quelqu'un qui était là, il saura que je parle peut-être en sa langue. Et il y a des moments aussi où le diable vous trompe. Parce que quand vous parlez en langue, c'est du chinois pour le diable. Il ne comprend rien de vos plans, des mystères que vous êtes en train de dire avec Dieu. Donc il vous dit, oh, ça là, ce n'est pas le vrai parler en langue. Ce n'est pas authentique. Et ça ne vous est pas arrivé une fois. Et vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que ce parler en langue là, c'est authentique, Kabi? C'est quoi? Je dis, Satan, il est écrit que lorsque je parle en langue, je parle avec mon Dieu. Et je ne suis pas censé connaître cette langue. Je ne suis pas censé calculer mes mots. Je ne suis pas censé connaître la logique de ce que je dis avec Dieu. Arrière-toi de moi. Parce qu'il sait que s'il fait ça, je vais prier par l'intelligence. Et lui, suit, il entend. Et s'il entend, il peut courir et l'utiliser contre moi. Donc, la manifestation, si quelqu'un tombe, c'est qu'il tombe parce qu'il a des démons en lui. Et en face de la manifestation de la puissance de Dieu, il ne peut pas résister le démon. C'est arrivé même encore à Ouaga, où on a demandé, papa a eu des révélations, les gens sont sortis. Et il a demandé aux pasteurs, aux intercesseurs, aux prophètes, je crois les prophètes et les intercesseurs, de sortir, de se mettre devant chaque personne et de prier pour les gens. Bon, comme moi, ce n'était pas dans mon église, je sais que mon ministère était dans les gens, parmi les gens qu'il avait appelés, mais je ne me suis pas levée. Mais j'avais fermé les yeux, je priais. Et monsieur me touche et dit, lève-toi, va prier pour la dame qui est là. Je dis, mais non. Il dit, lève-toi, va prier. Le Saint-Esprit me dit de te lever, d'aller prier pour la dame. Et quand je me suis levée, je suis allée vers la dame. J'ai vu deux dames qui étaient en train de prier pour elle, mais elles étaient là, feu seulement. Et quand je suis arrivée, la dame était... Part-elle, tournelle, c'est-à-dire vraiment manifestation démoniaque. Je dis, prenez-la, sortez-la. On l'a sortie. Et j'ai dit, je prends autorité dans le nom de Christ Jésus. Qu'es-tu, esprit? Parce que si tu ne connais pas l'esprit, comment tu vas le chasser? Jésus a dit, c'est quel esprit? Il a dit multitude. S'il n'avait pas posé la question, il ne saura pas que c'est une multitude. Il va penser que c'est un seul esprit, il va chasser le seul peut-être qui est des couillons, il va partir, les autres vont rester. Je dis, c'est quel esprit? Elle ne me répond pas. Je dis, je te commande parce que j'ai autorité sur toi. C'est quel esprit qui agit? Elle fait comme ça. Esprit de mort. Et les dames l'ont dit, non, il faut la laisser. Si vous restez là à prier encore, elle sera en train de tourner. Je l'ai regardée. Si mon regard pouvait les faire tomber, là, elles mêmes vont comprendre. Et je me suis mise à prier. L'instant d'après, vous voyez, elle faisait des roulades sur sa tête comme ça. Et puis après, quand moi j'ai fini de prier, j'ai dit, demandé de l'envoyer à la cellule de délivrance. Mais la cellule de délivrance ne l'a pas prise en compte. Elle est partie chez elle. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses là où elle est. Au moins, on a prié pour elle. Continue ton œuvre. On n'a pas besoin des hommes pour l'œuvre. Donc, devant la manifestation de ces esprits, devant la manifestation de l'Esprit de Dieu, celui qui est possédé peut tomber. Revenons à la première question. La Bible dit, ce que Dieu a, fait quoi? A uni la suite. Il a dit quoi? Dites-moi sincèrement, la touche de Dieu sur quelque chose. Un comportement peut enlever la touche de Dieu. Si un comportement surgit, la personne n'a pas bien écouté Dieu. Dieu lui aurait dit. Ou si c'est le plan de Dieu, Dieu aurait préparé la personne à. Ou pour. C'est clair. Dieu, il est sainteté. Il est souverain. Si la main de Dieu. Tu verras, c'est en cela que parfois les gens disent, ah, mais le lema est maouéa. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ou bien on dit, ces gens-là, ils ont connu. C'est-à-dire parfois même, vous pouvez même arriver à faire une séparation de corps. Mais, ils ne peuvent pas dire, qu'est-ce qu'il a fait? Puis, ils sont revenus encore. La touche, le tampon de Dieu, le sceau de Dieu est là. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour les non-chrétiens et les chrétiens. Il y a une différence. Celui qui n'a pas Dieu, c'est différent. Il mène sa vie sans la crainte de Dieu. On ne va pas les prendre dans... Comment je vais expliquer ça? On ne va pas les généraliser ensemble avec les chrétiens. Mais Dieu dit de pardonner. Si c'est peut-être un comportement, que c'est la main de Dieu. Dieu donne un tempérament à l'homme ou à la femme de supporter quelque chose. Et Dieu crée les temps et les circonstances pour toujours venir là. Et la Bible nous dit que celui qui construit sa maison sur du sable, mon pasteur était d'accord. Toute l'église est d'accord. Mon papa est d'accord, non? Tu as demandé la vie de tout le monde sur la terre. Mais tu n'as pas demandé la vie céleste. C'est difficile, je comprends, ceux à qui ça arrive. Parce que imagine, on a fait la carte, on a fait tout. Et puis à la dernière minute, Dieu te dit, mon fils, ça là. Et puis il restait peut-être l'argent pour acheter l'alliance, tu n'as pas trouvé. Tu coupes partout, tu n'as pas trouvé. Il n'y a quoi. Après, tu vas dire que c'est Dieu, bon, c'était le comportement. Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne t'a pas parlé. On dit c'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir. Et quand Dieu envoie quelqu'un faire quelque chose, il lui donne toujours ce qu'il faut pour accomplir. Et tu es allé passer de l'argent. Tu as fait ta chose. Et là, tu ne peux pas dire que c'est Dieu. Peut-être, à quelques jours de votre mariage, la dame, elle tombe malade. Bouton, tout ça là. Ou bien quelque chose lui arrive, elle est défigurée. Et la date est passée, elle dit, c'est pas grave, à zon, bon, minablo. Blo. Quel temps nous passons à écouter Dieu, au lieu de dire, quand je priais là, j'ai rêvé, c'est toi que j'ai vu. Koronoumi, il n'est pas un monstre. Et quand il y a un démon, ben, un coup de robe dans moi. Si nous écoutons Dieu, et que nous faisons les choses comme Dieu dit et que son cachet est mis sur cette union, et que les hommes vont tout faire. Ils vont sauter, ils vont descendre. Ils vont chercher partout, ils ne vont pas trouver. Il n'y aura pas, je ne dis pas qu'il n'y aura pas peut-être des épreuves ou bien des tentations au sein du couple, mais ils n'iront pas au divorce. Donc, ben, sinon, ce n'est pas Dieu. Personne ne peut enlever la main de Dieu. Personne. S'ils ont péché, Dieu va frapper. Dieu frappe, il les reprend. Si ils se répandent, la main de Dieu est toujours là. La présence de Dieu est là. Et la Bible a dit, celui qui bâtit sa maison sur le sable, quand viendra la tempête, cette maison fera quoi? Et n'a si c'est que je t'aime, c'est ma femme. Je l'aime beaucoup. Hein? On a fait 10 ans ensemble avant de se marier. Si ce n'est que ça là. Et n'a mais si tu bâtis ta maison sur le roc, tu as impossible. Ta maison résistera. Ton foyer résistera. Par sa puissance et par sa présence. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Je ne sais pas si c'est compris. Hein. Ou bien une autre question?
Voilà, c'est pour ce qui concerne...
Allez vite, parce qu'on va finir.
Oui, c'est pour ce qui concerne l'exemple que vous aviez donné sur les deux... qui était venu à l'église et qui voulait se marier. Voilà.
Oui.
Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place des pasteurs?
Je les appelle. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont développé une vie là-bas. Je leur présente l'évangile avec amour et je célébrerai le mariage. Parce que Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nos vies en tant que serviteurs de Dieu étaient quoi? Est-ce que Dieu nous a tués? Il nous a pris. Il nous a lavé. Il nous a fait grâce. Mais pourquoi est-ce que nous, nous voulons faire le contraire? Je célèbre. Et on les enseigne dans la parole. Et ils deviendront matures spirituellement. Mais aujourd'hui, ils sont partis. Ils ne reviendront pas. Peut-être la grâce de Dieu peut les ramener. Mais ce serait difficile. La dernière.
Selon le jardin d'Éden, et selon vous, selon Dieu, et c'est quoi le fruit défendu dans la Bible?
Pardon?
C'est quoi le fruit défendu?
Le fruit défendu.
On parle de fornication, tout ce qui est un truc, la débauche de la jeunesse. Là. Et deuxième truc, est-ce que la médecine a dit que, est-ce que le sexe guérit ou relâche l'homme de certaines maladies réellement? Troisième truc, quelle est votre église, votre situation réelle de l'église catholique, quoi, donc chrétien, votre chrétienté, quoi.
On va pas revenir sur la catholicité. Peut-être demain.
Votre église réelle.
Je refuse pas. Demain, soyez là. Mais je vais vous dire, mon église, c'est Christ. C'est Jésus-Christ.
Il y en a plusieurs.
Parce que nous sommes tous de Jérusalem. L'église, c'est moi, c'est ma vie. Je suis le temple de Dieu. Mais l'édifice de Pierre, c'est l'assemblée des saints. Là où les saints se réunissent pour être enseignés. Dieu n'est pas... Il est écrit, c'est dans quel livre, mon pasteur? C'est dans quel livre? Il dit, je ne suis pas dans les édifices de pierre, ni dans les objets taillés des mains d'hommes. C'est dans la Bible. Acte 17. Je ne suis pas dans les édifices de pierre, ni dans les objets taillés des mains d'hommes. Les statuettes là, les bois, les bouts de bois, les bouts de fer. Dieu dit, il n'est pas là. Dans les temples érigés pour montrer que nous sommes la grande puissance, il n'est pas là. Je suis l'église de Dieu. Et mon église, c'est Jésus. Parce que c'est lui, l'époux. Et je suis son épouse. Maintenant, vous avez dit... Que c'est quoi le fruit défendu? C'est vrai, je suis sûr qu'il y aura certaines personnes qui se posent la même question. Et en parlant de jeunesse, d'Adam et de Ève, on dit le fruit défendu, la pomme, c'est le sexe, c'est machin, c'est faux. F-A-U-X. Archi faux. Le fruit défendu, la Bible me dit dans Genèse que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Ça n'a aucun rapport avec le sexe. Aucun. La Bible a parlé du sexe, je suis d'accord. C'est Dieu qui a créé, il dit allez procréer. Remplissez la terre. Mais le fruit défendu, ce n'est pas parce que Adam a couché avec Ève. Et même si Adam couchait avec Ève, Ève a été prise de la côte d'Adam. Et Dieu a donné la seule chose que Dieu a dit à l'homme, a donné l'autorité à l'homme de nommer, c'est la femme. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à femme, que vous dites aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Il a dit à Adam, donne-lui de nom. Et Adam a dit, on t'appellera femme, os de mes os, chair de mes chairs. Ce n'est pas Dieu. Et si Dieu a créé pour dire que je vais te créer une aide et qu'il est la femme de Adam, c'est normal que Adam couche avec sa femme, non, c'est ça qui est le fruit défendu. Et si Dieu dit, allez-y et puis procréez, remplissez la terre, on va remplir la terre comment? Pas une baguette magique? Hein? Oui, je vous explique. Je vous explique avec amour. Avec amour. Donc, si Ève est la femme de Adam, c'est normal qu'il couche avec. Le fruit défendu, c'est la connaissance, c'est-à-dire les raisonnements de l'homme. Dieu a dit, il nous a donné, il dit, allez-y, vous avez la force, je suis en vous. Dieu parlait avec l'homme, avec Adam et Ève. C'est-à-dire, il descend dans le jardin, c'est ce que la Bible dit, il descend dans le jardin d'Éden, il leur parle. Et parce qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance, la Bible n'a jamais appelé ça fruit défendu, ou bien, oui, fruit défendu, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est les hommes qui ont changé, interprété, ceux qui font les films érotiques, les machins, on a essayé de tordre le cou à la parole pour sortir quelque chose. Moi-même, comme vous, je m'étais toujours posé cette question avant, quand j'étais bébé spirituel. Et c'est pourquoi je ne sais plus quel verset dit, comme c'est Pierre qui a dit, comme des bébés, il faut vous nourrir, après être né, il faut vous nourrir de l'air pour grandir. Il faut vous nourrir de la parole de Dieu. Je vais vous trouver rapidement la partie où Pierre a dit ça. Même si je ne trouve pas, je n'ai pas trouvé, mais je vais vous trouver ça demain. C'est Pierre qui a dit, je ne sais plus dans quel verset. Il faut vous nourrir. Et quand Dieu a dit, faites ci, c'est plus facile pour vous. Eux, ils ont vu que non, le diable est venu tromper Ève. Pour dire, oh, Dieu ne veut pas que vous soyez aussi grand que lui. Dieu ne veut pas que vous ayez l'autorité comme lui. Dieu ne veut pas que. Alors, ils sont allés manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont commencé par réfléchir. Et c'est en ce moment, la Bible dit que leur intelligence est ouverte. Et ils ont vu qu'ils étaient nus. Nus, ça dit, ils ont péché. Et devant Dieu, ils sont nus. Et il fallait qu'ils s'habillent. Donc, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est bon? La dernière? Attends, c'est lui d'abord.
J'ai deux questions.
Oui?
La première, c'est relative à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Lorsque les gens sont dans l'église, souvent on dit que le rapport sexuel, c'est les gens symbolisent même ça comme le mariage. Maintenant, la question que je voudrais poser, c'est quoi? Lorsque l'homme ou la femme va au sexe,
oui?
Et certaines églises refusent de célébrer ce mariage. Et on dit, bon, on va essayer de prier pour eux et ça passe. Donc, est-ce que le mariage, bibliquement, est conditionné à la virginité? C'est ma première question. La deuxième question, ça concerne l'exemple que vous avez donné tout à l'heure quand M. Romeau parlait. Vous avez dit, ce que Dieu unit, personne ne peut désunir. Mais la première me semble un peu plus importante. Est-ce que le mariage est conditionné à la virginité ou dans les églises aujourd'hui, si tu veux te marier, que tu n'es pas chaste ou bien tu n'es pas vierge, on suppose que tu ne dois pas être marié, on essaie de faire une cérémonie, on prie pour toi et comme ça passe.
Très bien. Bonne question. Et cette question est posée très très souvent par beaucoup de gens, ou d'autres l'ont, mais n'arrivent pas à poser. Si nous prenons la Bible, pour le mariage d'Isaac, la Bible nous a parlé d'une vierge, n'est-ce pas? pour le mariage de Esther, la Bible nous a dit qu'elle était vierge. Et pour beaucoup d'autres personnes, la Bible nous a parlé de leur virginité. Elles étaient vierges. Mais plus loin, il y a des mariages où on n'a pas précisé dans la Bible s'ils sont vierges ou pas. On n'a même pas précisé l'âge de la femme. Et très souvent, la Bible ne précise pas l'âge des femmes. On dit telle à 40 ans se marie et souvent les hommes. C'est vrai. Garder sa virginité jusqu'au mariage est bon. Et la Bible nous a donné plusieurs exemples comme ça. On est d'accord. Et c'est bon d'enseigner aujourd'hui à la jeunesse de garder leur virginité jusqu'au mariage. Parce que surtout quand la femme garde sa virginité, l'homme là, devant cette femme là, et pour toute la famille de la fille, c'est ton honneur. Et quand vous allez à des mariages, à Oussa, sortez un drap rempli de sang comme signe de virginité de la mariée, était un honneur pour la mariée, sa famille et même sa grande famille pour tout le monde. Et l'homme aussi est fier. Ça veut dire que cette fille qui a gardé sa virginité jusqu'au mariage, c'est le signe de la crainte de Dieu. On est d'accord. Mais un grand mais. Il y a des gens qui se marient tout en n'étant pas vierge. Est-ce que nous sommes déjà posé la question de savoir est-ce que Dieu va les punir? Le mariage, c'est quoi? J'ai dit ici dans cette salle, lors d'un enseignement, que le mariage, ce n'est pas ce que vous faites à l'église là. Ce n'est pas ce que vous faites à la mairie. Eh oh! Le mariage, c'est la dot qui réunit quatre familles. C'est là que c'est scellé. Et quand vous regardez la Bible, le mariage a toujours été célébré entre les quatre familles là. C'est la dot. Est-ce que vous avez vu quelqu'un aller à la mairie dans la Bible? Hein? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un aller dans le temple pour célébrer son mariage dans la Bible? C'est la dot. Et parce que le monde est en train d'avancer, on voit que l'homme peut avoir des biens. Pour que ce sujet ne porte peut-être pas à polémique, pour qu'on ne renvoie pas la femme, pour qu'il n'y ait pas tel ou tel sujet, les hommes ont décidé d'amener monsieur le maire dans le mariage. Et c'est monsieur le maire qui signe un papier pour dire, c'est pas l'alliance, hein. C'est monsieur le maire qui dit, je les reconnais. Et je sais que telle est la femme de telle. Donc s'il meurt là, tout ce qu'il a là, c'est elle avec ses enfants qui en a droit. Et parce que les hommes ont vu que Dieu doit prendre la première place dans leur foyer, ils vont faire la bénédiction nuptiale. C'est un abus de langage de dire on célèbre des mariages à l'église. L'église ne célèbre pas de mariage. L'église fait la bénédiction nuptiale. C'est parce que les hommes de Dieu ont commencé par confondre ce qu'ils doivent faire avec monsieur le maire ou bien avec les familles qui racontent des coups. L'église est là seulement pour prier, pour consacrer le couple à Dieu. C'est eux qui marient. Ne marie pas. L'église consacre le couple à Dieu. Le mariage, là, c'est la dot. Tout le reste dedans, là, bon, moi, on va à l'église. Moi, je porte la robe blanche. Lui porte la veste bleue. Ou bien lui porte la veste grise. Et puis, moi, je porte telle noire. Et moi, je porte le rouge et puis beige en bas. Là. Tout ça, là, c'est des cantates pour nous faire plaisir nous-mêmes. Vous savez? Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous lever pour aller à l'église et dire église, mariez-nous. L'église va vous renvoyer à la mairie. La mairie va dire, oh, il y a même quelque chose qu'on appelle certificat de célibat aujourd'hui. Allez me chercher ça. Maintenant, je vous retourne au papa de l'enfant. Parce que ce n'est pas moi qui marie. Moi, je fais juste la reconnaissance du mariage, comment vous appelez ça? Voilà, du mariage coutumier. Traditionnel ou coutumier. Et on vous renvoie là-bas. Donc c'est quand vous allez là-bas, mais le papa dit oui, non. Et les églises ont commencé par faire l'ordre de la bénédiction nuptiale. Papa, est-ce qu'il a payé tout ce que vous avez demandé? Et papa dit oui. Il dit ah. Tu vois ce que je dis? Maintenant, il peut y avoir des cas parce que Paul a donné un cas. Il dit par exemple, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître Dieu dans leur jeune âge, ceux-là qui peut-être sont restés dans le monde. Et aujourd'hui, le concubinage là, c'est quoi? C'est du vin, non? C'est à la mode. Ou bien, vous ferez mieux. C'est papa Kambé qui disait, il dit, tu ferais mieux de te reprendre. Hein? Vous ferez mieux d'aller régulariser votre situation le plus tôt possible. Parce que la Bible dit que ça là, ils sont où? Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que si vous vivez en concubinage, et après maintenant, quand elle commet l'adultère, vous ne commencez pas à crier. Vous l'avez montré à qui? Elle commet l'adultère et donc. Est-ce que tu as fait ce qu'il faut faire? Donc tu n'as pas fait. Maintenant, Paul a parlé des gens qui, par exemple, sans connaître Dieu, qui se sont éloignés de la face de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui se sont mis ensemble. Paul a dit dans Corinthiens, si ces deux-là se mettent ensemble, si il arrive que soit la femme ou l'homme, l'un d'entre eux, reçoive Christ et qu'il décide de marcher avec Christ, que le non-croyant accepte de rester là, dans le lien du mariage, avec le converti, ce n'est pas grave. Pas le converti, ils sont sanctifiés. Et quand on dit pas le converti, ils sont sanctifiés, regardez. On a dit que l'acte sexuel, c'est quoi? C'est une communion. Donc, par cette communion de la sainteté qui domine l'autre, ils sont sanctifiés. Mais si le non-croyant dit, femme ou homme qui s'en va, la Bible, Paul dit que le croyant ne le regarde même pas, il n'a qu'à le laisser partir. Ça ne le concerne pas. Est-ce que dans ce cas, le non-croyant décide de partir et que la personne est dans son jeune âge, décide de faire un autre mariage, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non. Il n'y a plus d'autres questions, on va se lever. On va prier, les autres questions, on va garder ça pour demain. Nous allons envoyer le micro à monsieur pour prier pour nous.
Excellent Père de gloire, nous venons te dire merci. Merci Seigneur pour chacune des vies que tu as amenées ici. Merci Seigneur parce que tu as inscrit leur nom dans le livre de la vie. Que tu les as passés des ténèbres ambiantes à la lumière. Merci Seigneur parce que tu n'en fais pas des baladeurs, des gens qui font de la balade, qui remplissent les églises, qui crient, qui chantent sans que rien ne change dans leur vie. Merci Seigneur parce que tu en fais des fruits, des témoignages de ceux que tu mets toujours la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas Seigneur. Tu as dit que ce que tu as commencé dans nos vies, tu le poursuis, que tu l'achèves pour nous rendre irréprochables devant toi. Qu'il en soit ainsi pour chacune des vies ici présentes au nom de Jésus. Donne-leur Père Tout-Puissant la conviction, la révélation de la puissance de la sanctification. Oui, Seigneur, tu nous as fait la grâce. Moi, par exemple, qui t'ai connu il y a à peine 4 ans, tu as fait de moi une percée, une fusée dans le ciel spirituel avec pour secret la sanctification. Oui, Seigneur, j'ai fait l'expérience de ce qu'on se sanctifie rapidement, on va à la vitesse de la lumière dans ton royaume. Qu'il en soit ainsi pour au nom de Christ Jésus. Par le transfert dont je transfère sur leur vie, la puissance de la sanctification accomplie rapidement au nom de Christ Jésus. Nous avons ici non pas des soldats, non pas des ventrus dans l'armée du Seigneur, mais des commandos redoutables qui vont gagner des millions d'âmes pour toi au nom de Christ Jésus. Tout cela, je l'ai prophétisé, Seigneur. Je sais que tu les accompagnes, tu les bénis, ta grâce est sur eux, la santé est sur eux. Tes bénédictions les accompagnent tous les jours. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?